BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la tour de contrôle sur vos placements, ceux qui décollent et ceux qui, au contraire, pourraient peut-être vous faire atterrir. Bref, on vous alerte sur toutes les tendances à la hausse comme à la baisse grâce à nos experts mobilisés jusqu'à 18h. Et Étienne Braque depuis la tour Euronext. Rebonjour Étienne, vous suivez cette séance de l'intérieur.
Bonjour
comment,
à tous.
Comment va le CAC 40 aujourd'hui?
Eh bien écoutez, il rebascule dans le rouge, il est quasiment sur les plus bas niveaux de la séance et met en danger les 8000 points, 8013 points, c'est une baisse de 0,1%, le tout avec 1,4 milliard d'euros négociés. Wall Street qui est dans le rouge également, trois indices américains qui font une pause, pénalisés notamment par le secteur bancaire et puis quelques prises de profit après des belles progressions sur les valeurs technologiques. Pour l'instant, sur l'ensemble de la semaine, vous avez un CAC 40 qui est en léger retrait.
Effectivement, on va tirer le bilan de cette nouvelle semaine et est-ce que les nouvelles attentes des marchés sur les politiques monétaires sont réalistes? Non, c'est ce que nous disait tout à l'heure Florian Hielpo dans la Bourse Cash. Vous pouvez retrouver le replay d'ailleurs sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Pour lui, le marché est en train de se planter avec la Réserve fédérale américaine et la Fed pourrait, malgré les anticipations de marché, bel et bien baisser ses taux dès le mois de juin. Il nous a apporté beaucoup d'arguments, donc à retrouver en replay. On parlera aussi géopolitique, les risques au Proche et Moyen-Orient, les risques sont-ils pricé par le marché? Cette question, on la pose aujourd'hui à nos experts. On va continuer, bien sûr, de le faire. Et puis, la data room, tout à l'heure, juste avant la clôture. Figurez-vous que les stocks de cuivre à l'échelle mondiale, les stocks de cuivre sont en chute libre. Ils ont diminué depuis le début de l'année de 25%. Est-ce un obstacle pour l'électrification? Une chance pour les pays producteurs de cuivre et un soutien de plus pour l'inflation que de voir ces stocks de cuivre reculer de 25% depuis le début de l'année en à peine 3 gros mois. On posera la question, ce sera dans la Data Room à partir de 17h25. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Étienne, vous nous le disiez, beaucoup d'indécisions sur le marché. On termine cette semaine sur une note assez terne cet après-midi.
En effet, avec un CAC 40 qui recule de 0,1% à l'instant et sur l'ensemble de la semaine, l'indice perd 0,2%. Il est résilient quand même ce CAC 40 face à un once d'or qui est sur des records historiques, qui gagne plus de 2% au-delà des 2 400 $. 2% également de variation pour le pétrole à 91 $ sur des plus hauts d'octobre dernier, avec notamment des informations de presse qui évoquent qu'Israël se prépare à mener des attaques ce week-end vers l'Iran. L'Iran qui pourrait également riposter. Donc forcément tout ça, ça fait grimper les cours du pétrole, ça fait grimper l'once d'or et puis ça fait grimper également le dollar qui est une valeur refuge par excellence. Rendez-vous compte, l'euro dollar perd quasiment 2% sur l'ensemble de la semaine, c'est sa pire semaine depuis 2022. Et malgré tout cela, vous avez un CAC 40 qui tient avec des volumes d'échanges qui sont certes pas très élevés, mais il tient grâce notamment à Total Energy qui gagne aujourd'hui plus de 2% à 69 € sur un record historique. Engie gagne 1,8% à 15,89 € quand ArcelorMittal de son côté prend 1,6%. Bref, les matières premières profite aux géants cycliques de la côte parisienne, alors que l'autre côté, c'est plus compliqué pour le luxe qui a affiché une très belle performance depuis le début de l'année et visiblement certains investisseurs prennent leur profit, moins 1,3% pour Hermès à 2261, LVMH à 779, quand Kering de son côté perd un 6 à 349. Et puis enfin un dernier mot sur les taux, parce que c'était ce qui, souvenez-vous, avait pénalisé la séance d'hier, un 10 ans américain qui était sur des plus hauts de 5 mois à 4,6%. Aujourd'hui, le 10 ans américain est à 4,49. Il perd 8 points de base et un CAC 40 donc qui perd 0,2% et qui met donc en danger les 8000 points. 8007 points à l'instant pour l'indice parisien.
Guillaume Magre est avec nous depuis les bureaux de GSD. Bonjour Guillaume, on est ravis de vous retrouver.
Bonjour.
Ouais, beaucoup d'indécisions, c'est vrai, sur le marché. On achète des actifs refuge. On sent monter quand même un petit peu de tension là, en raison du contexte géopolitique. D'ailleurs, l'indice de volatilité, le VIX, refranchit la barre des 17. Guillaume, il y a un titre qui s'en sort quand même très très bien. Hier déjà, les surperformer son secteur, ça continue. Et de plus belle, aujourd'hui, Société Générale. Ce titre gagne 2,5%. C'est un peu la grande braderie là, chez Société Générale. Ils ont annoncé hier un projet de cession pour plus d'1 milliard. Et aujourd'hui, ils en annoncent un autre au Maroc pour plus de 700 millions d'euros. Comment est-ce que vous interprétez cette stratégie de la Société? Et est-ce que ces cessions, changent le profil du groupe et donc peut-être le potentiel du titre en bourse, Guillaume?
Ça change pas réellement le profil du groupe, mais en tout cas, ça s'inscrit pleinement dans le plan stratégique que le groupe avait mis en place, c'est-à-dire céder ses activités peu rentables et disposant d'une faible.
Ah. Bon.
compris. Ça marche pas. On va essayer de rétablir la liaison, bien évidemment. Oui, parfois, le téléphone, le bon vieux téléphone, lui aussi peine et a du mal, effectivement, ce titre qui progresse. Alors, le but de ce plan stratégique dont vous nous parliez, c'est de simplifier le capital de la Société Générale et essayer de rendre le groupe un peu plus performant d'un point de vue capitalistique. C'est comme ça que, lors de la présentation de son plan stratégique, Société Générale avait annoncé effectivement les cessions à venir et qui, désormais, ces cessions se traduisent. Hier, une cession annoncée pour plus d'un milliard d'euros et aujourd'hui, une autre, cette fois au Maroc, sur deux acteurs hein, au Maroc que détient la Société Générale. Et là, ça rapporterait, en tout cas, ça, ce serait un prix de vente pour plus de 700 millions d'euros pour ces deux actifs au Maroc, effectivement. Alors, ce titre Société Générale surperforme dans un univers bancaire qui a du mal. Société Générale gagne plus de 2% aujourd'hui, alors que le reste du secteur a un petit peu plus de mal. Et c'est aussi le cas aux États-Unis. On est sur une journée de publication aux États-Unis dans le secteur bancaire. C'est le grand coup d'envoi des trimestriels aux États-Unis. Le secteur a commencé, donc, à annoncer ses résultats. Etienne pourra peut-être d'ailleurs nous en parler. JP Morgan, par exemple, ce titre JP Morgan, est sanctionné après l'annonce de ses résultats. Le titre perd 3,5% en ce moment à Wall Street, Étienne.
Eh oui, même quasiment 5%, hein, 4,8% là pour JP Morgan qui est sur les plus bas niveaux de la séance, avec Jamie Dimon qui est prudent depuis quelques mois, mais alors là, dans la publication de ses résultats, il déçoit très clairement les investisseurs, avec déjà une publication qui est plus ou moins en ligne avec les attentes, et puis surtout un groupe qui ne revoit pas à la hausse ses objectifs. Jamie Dimon qui est prudent pour les prochains mois, à cause notamment des conflits géopolitiques. Forcément, hasard de calendrier, bah, c'était pas forcément le bon jour pour publier ses résultats, et puis aussi les pressions inflationnistes, on l'a encore vu ces derniers jours. Donc tout ça, ça pèse sur ce titre, quasiment 5%. Vous avez Wells Fargo qui a aussi été prudent en début d'année en disant aux investisseurs on a un revenu net qui va reculer de 7 à 9% cette année. Bon, bah, ils ne revoient pas à la hausse leurs objectifs. Donc là aussi, vous avez le titre qui recule. Et puis enfin, un dernier mot sur Citigroup. C'est intéressant parce que c'est un peu plus grand public. Et puis alors là, la remontée des taux, bah, ce n'est pas profitable non plus pour le groupe qui est en pleine phase de restructuration. 7000 postes qui vont être supprimés dans les prochaines semaines. Des activités de marché qui sont en baisse, hein, moins 25%, c'est quand même assez important. La banque de détail, moins 14%. Et puis surtout, un groupe qui eh bien, augmente par deux quasiment ses provisions en cas de risque, avec forcément la remontée des taux. Bah, certains ménages américains qui ne pourront pas rembourser leurs crédits, que ce soit sur les cartes de crédit, mais aussi sur les prêts. Comme quoi, cette remontée des taux n'est pas forcément favorable aux banques américaines. On le voit bien aujourd'hui et il faudra suivre la semaine prochaine la publication de Goldman Sachs pour confirmer ou non cette tendance.
Effectivement, et d'ailleurs, Étienne, on voit les petites entreprises américaines perdre le moral. Le moral des petites entreprises américaines qui a été mesuré et publié dans une enquête, c'était il y a 2-3 jours, ce moral tombe à un plus bas de 11 ans, sans doute lié aussi cette baisse de moral à la hausse, la remontée des taux obligataires. C'est pour ça que beaucoup poussent effectivement aussi à des baisses de taux désormais aux États-Unis, même si le marché désormais n'attend plus de baisse avant le mois de septembre. Alors vous le disiez, Étienne, on suit le secteur bancaire américain. À Paris, dans l'univers bancaire, la Société Générale qui est en tête du CAC 40. Il y a un autre secteur à ne pas rater, vous l'avez repéré, il est en baisse et il faudra surtout le suivre la semaine prochaine avec la publication de LVMH. C'est le secteur du luxe. Il souffre aujourd'hui, ce secteur, Étienne.
Ah oui, très clairement, puisque vous avez LVMH qui perd 1,3%, qui sous-performe donc la tendance générale, puisque l'indice perd 0,2%. La valeur qui s'échange sous les 800 euros à 779. Vous avez Kering qui perd 1,6%, et puis Hermès qui perd 1,3% avant le chiffre d'affaires mardi de LVMH, avec un consensus qui s'attend à une légère progression des ventes, hein, parce que malheureusement, on n'aura que les ventes. Hein, le groupe ne va pas dévoiler l'entièreté des résultats du premier trimestre. Vous avez Hermès qui devrait afficher une croissance supérieure à 10%, et puis bien sûr, ce qui sera surveillé par les investisseurs, c'est la reprise en Chine, hein, parce que ça fait des semaines que le marché attend une reprise en Chine et les derniers indicateurs ne sont pas très encourageants, hein, notamment quand vous regardez le nouvel an chinois. Et puis de l'autre côté, bien sûr, le consommateur américain, est-ce qu'il sera toujours résilient, surtout la classe aspirationnelle, hein, qui a porté le secteur du luxe, qui est moins aisée, mais qui avait envie de se faire plaisir, est-ce qu'elle se fera toujours plaisir? Ça sera important, notamment pour LVMH.
En attendant, on le voit, hein, dans ce mur d'images BFM Business, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business, c'est aussi la télévision, les valeurs du luxe sont en baisse, un petit peu de pression avant les premières publications qui approchent. Merci beaucoup, Étienne. Et justement, les publications, c'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil X, vous pouvez vous y abonner, notre fil LinkedIn aussi. Est-ce que les publications permettront aux entreprises de briller? Oui ou non? N'hésitez pas à continuer de répondre et nous laisser vos arguments en commentaire. Valeur ajoutée, Romain Détos nous appelle. Tiens, bonjour Romain, depuis Talence Gestion. Aujourd'hui, c'est sur Biomérieux que vous émettez une opinion favorable. Vous estimez que ce titre Biomérieux, dans les portefeuilles, peut apporter de la performance?
Absolument, c'est une valeur qui a fait un petit peu la chronique cette semaine avec sa journée investisseur. Donc c'est une société familiale française, hein, qui est leader sur des marchés du diagnostic in vitro. Et donc profondément ancré dans l'ADN de BioMérieux, l'esprit d'innovation lui a permis d'être leader dans des niches à forte croissance. On parle de la microbiologie, plus récemment le diagnostic moléculaire ou encore même l'analyse microbiologique dans des industries telles que la pharma ou l'agroalimentaire. Et en plus de ça, ces parts de marché sont très difficiles à attaquer, puisqu'un peu à l'image du modèle rasoir, lame de rasoir, une fois ces machines installées, bien BioMérieux vend les consommables permettant de réaliser les tests et bien évidemment mieux marger, faisant ainsi un véritable cercle vertueux au fur et à mesure que cette base installée croît. Et donc poussé par des tendances fortes, telles que l'accélération du diagnostic délocalisé ou le besoin de faire face à la résistance aux antimicrobiens, eh bien Biomérieux a annoncé en début de semaine vouloir croître de plus de 7% par an à horizon 2028 avec des ambitions qui sont s'appuient sur un plan tangible, des lancements innovants sur l'ensemble de sa gamme, l'accélération de partenariats commerciaux et technologiques et de la diversification géographique.
Le groupe Biomérieux a tenu, c'était en début de semaine, c'était mardi, son Capital Market Day. Le titre avait très très bien réagi. On se souvient, je crois que de mémoire, Biomérieux avait gagné sur la séance à peu près 8%. Vous n'estimez pas, franchement Romain, vous n'estimez pas qu'il est un peu tard pour rentrer dans cette valeur?
Non, je suis même intimement convaincu que c'est le moment d'y aller, puisque finalement, après une période de normalisation du marché du diagnostic post-Covid et un certain scepticisme qu'il y a eu de la part du marché quant à sa capacité de générer la croissance avec ses nouveaux produits, eh bien, la société lyonnaise finalement se traite aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui sont proches de plus bas que sur les 10 ans. Alors qu'on a une accélération de la croissance organique qui se matérialise, on a des lancements de produits qui sont réussis, un marché sous-jacent qui est peu sensible à la conjoncture macroéconomique, une marge opérationnelle qui va passer de 16,6% à 20% à horizon 2028, un bilan qui est net de cash, et en plus de ça, une véritable volonté du management maintenant de vouloir mieux communiquer. C'est donc une véritable conviction du fonds Horizon Leader Europe.
Merci beaucoup Romain. Romain Detto, ce titre Biomérieux à ne pas rater. Donc en tout cas, vous estimez qu'il offre du potentiel. Biomérieux gagne aujourd'hui 0,6%. On le voit à l'écran, effectivement, 105,30€. Sur 6 mois, il gagne 16%. Et donc, on n'est sans doute pas au bout. Et peut-être pas encore au but. Encore de la hausse à venir. C'est ce que vous estimez avec vos équipes chez Talence Gestion. On rappelle à ceux qui nous suivent que c'est une idée de diversification, bien sûr. Ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Ne jamais investir sur un seul titre, ni même un seul secteur. Et vous nous interrogez aussi, alors que les banques centrales vont bien finir à un moment par baisser leur taux, notamment la BCE, sans doute au mois de juin. Vous nous demandez comment réaménager, réallouer vos placements. Cette question, on l'a posée, c'était à 15h50 à Benoît Lombard de Maison Laplace. Il nous a répondu. Si vous avez raté le direct, donc vers 15h50, le replay est à suivre sur bfmbourse.com, également l'application BFM Business. Vous pouvez retrouver tous nos replays et podcasts sur cette application BFM Business.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Les baisses de taux à venir, peut-être assez rapidement de la part de la BCE, mais pour la Fed, c'est pas gagné. Michel Ruimi est avec nous pour Lévy Capital Partners. Bonjour Michel. On est ravis de vous retrouver. Effectivement, voilà, on termine cette semaine. Ce sera la semaine où le marché a réajusté ses anticipations de baisse de taux de la part de la Fed. On estimait jusqu'ici que la première baisse aurait lieu en juin pour la Fed. Et finalement, en cette fin de semaine, on a réajusté et le marché n'attend plus rien avant septembre. Est-ce que vous faites partie de ceux qui commencent à se dire que la Fed pourrait même ne pas baisser ses taux du tout cette année? Est-ce que c'est envisageable, Michel?
En fait, la Federal Reserve envisage toujours de réduire ses taux d'intérêt. Mais pour l'instant, ses responsables temporisent tant qu'ils n'ont pas la certitude que l'inflation est, on va dire, jugulée. Et en fait, le récent rebond de l'inflation apparaît comme un obstacle, en fait, à cette remontée des une baisse des taux, excusez-moi. Et donc, je pense qu'on devra attendre pour avoir la première baisse des taux, d'autant que, en fait, l'élection présidentielle du 5 novembre va aussi perturber, va se superposer à la baisse des taux de la Federal Reserve. Alors, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que la Federal Reserve est indépendante du pouvoir politique, mais sa réunion de septembre sera la dernière avant l'élection. Donc, je pense que, à mon sens, il y aura une baisse cette année, peut-être en septembre, mais pourquoi pas après les élections de novembre, puisqu'il y a deux réunions de la Fed Reserve qui sont prévues après ces élections. Et donc, on pourrait avoir soit une baisse à cette occasion, lors de ces deux, réunions, mais comme on est en fin d'année, ceci pourrait se passer également aussi dans les premières semaines de l'an prochain. Donc, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'expectative là-dessus. D'autre part, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça fait plus de 30 ans que les États-Unis n'ont pas connu une forte inflation. Et cette inflation pourrait s'inscrire dans le paysage à moyen long terme, du fait des tensions géopolitiques, on le voit aujourd'hui, mais aussi du fait que, à l'instar des États-Unis, beaucoup de pays cherchent à s'affranchir de la Chine, de la production de leurs biens, et donc à rapatrier leur production chez eux. Et donc, ça pourrait faire grimper les prix d'ici dans les 10-20 prochaines années. Donc la problématique des taux sera encore présente dans les prochains mois, voire dans les prochaines années.
Alors, il y a vraiment débat sur le calendrier de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Le marché attend désormais moins de 2 baisses de taux cette année de la part de la Fed. C'est incroyable comme le marché est en train de se réajuster. Ça s'est traduit par une hausse de 10 ans américain. Il était à 4,6 hier. Là, cet après-midi, il était à 4,5. Puis au contraire, certains intervenants de marché nous disent non, le marché peut réajuster ses anticipations. La Fed, elle, maintiendra son cap et la Fed baissera sans doute ses taux dès le mois de juin. Ça, c'est le scénario, par exemple, de Lombard IM. Florian Yelpo nous disait le marché nous fait sa petite crise d'adolescence, là, en réajustant tout comme ça d'un seul coup. Mais la Fed, elle tient son cap. C'est une banque centrale adulte. Et il nous disait la Fed baissera ses taux au mois de juin. Voilà, c'est un pari qu'il a pris et dont il nous faisait part tout à l'heure à l'antenne sur BFM Business. Faites vos jeux. Du côté de la BCE, là, pour le coup, on a peut-être un peu plus de certitude, surtout à l'issue de la réunion d'hier. Michel, vous tablez, vous misez plus que jamais sur le mois de juin pour cette première baisse de taux de la BCE?
Pourquoi pas, mais je suis quand même dubitatif parce que, certes, la décision ouvre un assouplissement de sa politique monétaire, mais c'est toujours sous certaines conditions, puisque si on regarde le communiqué, on dit oui, à condition que il y a la vigueur de la transmission de politique monétaire, la dynamique de l'inflation sous-jacente et aussi l'évaluation des perspectives d'inflation. Donc, certes, il y a peut-être potentiellement un assouplissement, une baisse des taux, mais rien n'est moins sûr. Mais ceci dit, je pense que si la BCE prend sa décision de baisser les taux avant la Fed, eh bien, ça peut poser des problèmes parce que l'euro pourrait perdre de la valeur face au dollar, ce qui renchérirait les importations européennes et potentiellement relancerait l'inflation. Ce qui pose, à mon sens, une deuxième question, c'est celle du délai entre les deux annonces de baisse de taux. En effet, parce que l'accélération de l'inflation aux États-Unis ne pousse pas la Federal Reserve à baisser ses taux, et les États-Unis peuvent se permettre encore d'attendre puisque la consommation des ménages reste relativement solide. Donc, pour moi, il n'est pas certain que cette baisse de taux en juin de la BCE puisse se produire avec certitude. Et ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, la BCE est encore dépendante des décisions de la Fédérale Réserve.
Incroyable. Alors qu'elle s'en est défendue hier, hein, Christine Lagarde. Elle a bien dit, nous ne dépendons pas de la Fed. Non, on ne dépend pas de la Fed. On dépend des données dans un contexte global dont la Fed fait partie. Mais nous ne dépendons pas de la Fed. Bon, évidemment, on suivra tout ça dans BFM Bourse particulièrement. Merci Michel Rémy, depuis les bureaux de Lévy Capital Partners. Le CAC 40, toujours hésitant, moins 0,1% cet après-midi.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on va parler des thématiques d'avenir, l'intelligence artificielle à travers un des grands acteurs mondiaux. Alice Labou nous rejoint. Bonjour Alice, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Présidente fondatrice de Trecento Asset Management. D'abord quand même, l'intelligence artificielle en bourse, ça patine un peu, non? Depuis quelques semaines, Nvidia, depuis ses plus hauts, a perdu 10%. Intel, cette semaine, a présenté ses futures puces en version V3 d'intelligence artificielle. Le tir d'Intel a quand même reculé. Bon, est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour choisir de se lancer dans cette thématique en bourse?
Nous, on pense que non, bien sûr. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, on fait un peu plus de 18%, donc c'est quand même pas mal en termes de performance. Mais on est globalement sur un marché haussier sur l'IA. Et d'ailleurs, on est très loin d'avoir vu toutes les applications qui font et qui pourront être mises en œuvre grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un marché haussier. Dans un marché haussier, vous avez des périodes de plateau ou des respirations avec des baisses de 5 à 10%. Mais si vous voulez, rien n'invalide le cas, puisque, en tout cas sur cette thématique, d'abord, les fondamentaux sont solides, c'est-à-dire que les entreprises en IA publient de très bons résultats et surtout des très bonnes perspectives. Deux, les valorisations même de Nvidia. Je sais que quand je vais à des réunions, souvent les gens me disent, mais est-ce qu'il faut encore acheter du Nvidia ou est-ce qu'on est au plus haut du plus haut? En fait, si Nvidia réalise ses objectifs en termes de valorisation, on n'est pas sur des niveaux si élevés que cela. Et puis, surtout, ça reste une thématique séculaire, c'est-à-dire que c'est très clairement basé sur des catalyseurs de très long terme. Et donc, ça devrait fonctionner. On a quand même les premiers retours, on va dire retours clients qui sont exprimés. Le patron d'IBM qui disait que là où d'habitude, il lui faut 2 semaines pour lancer une campagne marketing, maintenant, c'est 2 jours. Grâce à Copilot, dont on avait parlé ensemble, qu'a développé Microsoft, qui vient aider sur les applications, les salariés, les applications classiques, hein, les PowerPoint, Word et compagnie, Excel, on est jusqu'à 50% d'augmentation de la productivité. Donc, on voit les avocats maintenant qui utilisent de plus en plus plus de solutions d'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça peut poser des questions pour certaines corporations. Et ça, c'est juste le tout début. Donc, si vous voulez, on est à l'aube d'un bouleversement majeur. C'est une révolution technologique forte. Et donc, du coup, pour moi, c'est un moment opportun pour accumuler, pour profiter de cette opportunité.
Profiter de la respiration du moment sur la thématique. Apple, qui ne profitait pas de la thématique IA, commence peut-être à en profiter d'ailleurs. D'après Bloomberg, les prochains Mac d'Apple intégreront de l'intelligence artificielle. Apple a gagné hier plus de 4%. Et alors que Wall Street recule aujourd'hui, Apple progresse à nouveau. Plus 1,2%.
Apple avait pris pas mal de retard justement sur le sujet. En tout cas, la société n'avait pas fait d'annonce majeure. Et donc du coup, c'est plutôt bien. Enfin, on savait qu'ils travaillaient sur des annonces à venir. Donc je partage votre analyse.
Il y a peut-être un potentiel à venir sur l'IA à travers Apple en bourse. On sent que quelque chose est en train de poindre et qu'il y a de l'espoir dans le marché avec cette belle séance d'hier et encore aujourd'hui. Alors vous allez nous parler, puisqu'on est dans l'intelligence artificielle, du leader mondial de la production de semi-conducteurs, et que vous détenez d'ailleurs dans vos fonds chez Trecento. Le titre TSMC, le géant taïwanais TSMC, qui va d'ailleurs publier dans quelques jours, c'est pour ça que vous nous en parlez, et on vous demandera comment la publication se présente, ce sera la semaine prochaine. D'abord, petit rappel, le portrait de TSMC. Qui est, que fait TSMC ?
Alors, c'est vrai que pour le grand public, TSMC, c'est un peu inconnu au bataillon, mais en réalité, c'est l'épicentre technologique du monde moderne, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plus grand fabricant au monde de semi-conducteurs. Et donc, c'est une entreprise qui est cotée à Taïwan, qui a une double cotation aussi sur le marché américain. Et en fait, donc, leur métier, c'est de fabriquer ces fameux, on appelle ça en anglais les chips ou alors les semi-conducteurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur ? Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir. En fait, le premier semi-conducteur, il a été créé en 1958 aux États-Unis. C'est un concentré de technologie. Donc on prend des grandes plaques de silicium qu'on coupe en petits bouts et puis on imprime des circuits et dessus on met un certain nombre de composants. C'est les fameuses puces en fait qu'on a dans tous les objets du quotidien que nous connaissons, les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs, les voitures maintenant. Il y en a un peu partout. Donc TSMC, en fait, ça a été fondé par un garçon qui est sorti du MIT et qui est allé travailler pour le gouvernement taïwanais. Et en 1983, l'idée, c'était pour le gouvernement taïwanais de développer cette industrie des semi-conducteurs. Et lui, il a eu une idée qui a changé la donne, qui est extrêmement simple, mais qui a changé la donne. Il a dit, on ne va pas produire pour nous-mêmes, mais on va produire pour les autres. C'est-à-dire qu'on va créer des usines de fabrication où ceux qui veulent développer des solutions de semi-conducteurs vont pouvoir faire appel à nous pour la production. Résultat, ils sont leaders mondiaux aujourd'hui, donc on appelle ça une fonderie en fait. Leaders mondiaux, il faut imaginer que c'est quand même colossal d'être leader mondial sur le sujet. Donc ça connaît vraiment un franc succès parce que ils peuvent produire rapidement et donc ils s'adressent au monde entier, et deux, ils ont quand même développé des capacités de miniaturisation très très élevés, ce qui fait qu'ils font parmi les puces les plus innovantes d'un point de vue technologique.
Sauf qu'ils sont taïwanais. Et que Taïwan est au cœur d'un conflit géopolitique avec la Chine. On a eu ce séisme aussi il y a quelques jours à Taïwan. On est sur une faille à Taïwan. Et pour l'industrie des semi-conducteurs, c'est un sujet également, un sujet physique même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'investisseur à choisir TSMC en portefeuille ?
Alors vous avez raison, ce sont des risques qu'il faut identifier et prendre en compte dans son investissement. Après, bon, le premier risque, il est géopolitique. Là, on ne peut pas faire grand-chose, très sincèrement. Par contre, sur le risque sismique, là, par exemple, bon, ce séisme n'a pas eu d'impact sur les chaînes de production de TSMC. Puis surtout, ils se sont préparés à cela. Donc, ils ont mis en place des systèmes qui permettent d'arrêter en quelques secondes l'ensemble des chaînes de production avec un redémarrage entre 36 et 48 heures. Donc, jusqu'à présent, jusqu'ici, tout va bien. Alors, pour pallier justement à cette difficulté, ce qu'ils ont mis en place, c'est aussi des usines de production en dehors de Taïwan et en particulier aux États-Unis, où à partir de 2020, ils ont lancé à Phoenix, en Arizona, une usine énorme, gigantesque de production de semi-conducteurs. Là, ils en sont à la préparation de leur troisième usine, toujours Phoenix, Arizona, subventionnée par, roulement de tambour, les Américains. Ah oui. 12 milliards de dollars qui viennent de leur être octroyés en prêt et en subvention.
12 milliards.
12 milliards, c'est juste incroyable. À mettre en perspective sur les investissements qui sont réalisés en France et en Europe sur ces thématiques. On n'est pas très dans une situation très intéressante pour l'avenir de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est un top pour les Américains, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont développé ce qu'on appelle le Chips Act, avec l'idée de relocaliser les actifs stratégiques et Et quoi de plus stratégique que de produire ses propres semi-conducteurs dans la rue Everlord, qui est celle qu'on a évoquée précédemment.
Alors TSMC, ils ont présenté leur vente, leur chiffre d'affaires il y a quelques jours. La semaine prochaine, ils franchiront une étape, la publication attendue...
Le 18.
Voilà, jeudi prochain.
Jeudi prochain. Ouais. Donc jeudi prochain, c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est la publication des chiffres de TSMC. Ils ont déjà donné leur chiffre d'affaires, un peu plus de 16% de croissance de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal. Et on attend a priori plutôt de bons résultats. Donc il y a une traction très très forte de l'intelligence artificielle, évidemment, pour cette entreprise. Juste pour vous donner une idée, il est estimé que le marché des semi-conducteurs va doubler à horizon 2030. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu une grande partie de la croissance donc ça veut dire plus 100% de croissance attendue. Juste dernier petit chiffre, TSMC, c'est 90% de la production mondiale des semi-conducteurs. Donc les barrières à l'entrée sont énormes, c'est-à-dire que pour être... je ne vois pas très bien comment ils peuvent être détrônés. En tout cas, ça a l'air compliqué.
Vous gardez TSMC en portefeuille?
Évidemment, évidemment.
Alice, merci beaucoup d'être passée nous voir. Alice Labou, présidente fondatrice de Trecento Asset Management. Dans un instant, jusqu'à 17h, la famille BFM Bourse va se réunir. On va mesurer pour la suite le potentiel des marchés, puis revenir sur l'once d'or quand même. Plus de $2,400 désormais l'once d'or, qui n'en finit pas de battre des records. Alors bien sûr, les banques centrales, notamment émergentes, et la Chine achètent de l'or, une forme de petite dédollarisation du monde. Et il y a aussi ce contexte géopolitique. L'or est un actif refuge. On en parle juste après la pause.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Comme chaque jour de 16h30 à 17h, c'est la famille entière BFM Bourse qui se réunit, les équipes radio, télé et web. Bonjour Jean-Louis, Jean-Louis Dallouro.
Bonjour Guillaume, bonjour
ambassadeur,
à tous.
Ambassadeur des équipes web aujourd'hui. Merci Jean-Louis de nous accompagner. Oh, que d'articles sur notre site BFM Bourse. Vous n'avez pas chômé cette semaine. Et c'est vrai que les marchés sont à une forme de tournant, un peu hésitant du coup le marché. Cet après-midi, que fait le CAC 40? 16h32, il est en baisse, petite baisse, moins 0,1%.
Oui, il a un peu du mal à se décider. On était pourtant bien parti parce qu'il y a plusieurs signes encourageants quand même sur l'inflation. Alors, je vous dis ça plutôt côté européen. On a confirmé l'inflation en mars pour l'Allemagne à plus 2,2% sur un an en mars et plus 2,3% en France. Donc, ça, voilà, on confirme. Il n'y a pas de surprise, mais il n'y a pas de mauvaise surprise inversement. En revanche, ce qui est intéressant à noter, c'est plutôt, moi, j'insisterai sur la faiblesse de l'euro par rapport au dollar. On est quand même à 1,06 pour ceux qui ne regardent pas ça tous les jours. Donc, 1 euro pour 1,06 $, ça baisse quasiment de 1% aujourd'hui, ce qui est beaucoup sur le marché des changes, et ça glisse depuis début mars. C'est un petit peu la traduction que de plus en plus on s'attend à ce que la BCE fasse un premier mouvement vers une baisse des taux avant la Fed. Donc, par conséquent, ça affaiblit un petit peu l'euro par rapport au dollar.
Oui, effectivement. Puis les actifs refuges qui restent recherchés dans le contexte, on reparlera de géopolitique tout à l'heure, mais le dollar monte, ça fait partie des actifs refuges. L'once d'or aussi, 2400 combien là ? 30. 2430 ? Attendez, je chausse mes lunettes. 2430, c'est bien ça.
Ça doit être un nouveau record, là, à mon avis.
Ouais, un nouveau plus absolu, ça n'arrête pas. Effectivement, sur cet actif refuge qu'est l'or, et puis les banques centrales qui en achètent aussi, certaines émergentes, pour dédollariser un petit peu leurs réserves. Tiens, ils nous appellent depuis les bureaux de boursicoté.com. Gilles Santacreux, bonjour Gilles, merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Fin de semaine un petit peu terne là, sur le CAC 40, moins 0,2%. On préserve, alors vraiment de justesse quand même, les 8000 points. Vous allez nous dire si c'est une barre technique importante, les 8000. On est à 8009 points en ce moment, Gilles.
8000 points, non, pour moi c'est pas une barre technique importante, c'est une barre psychologique peut-être, mais techniquement j'ai pas grand chose là-dessus. Moi j'avais une zone que j'avais indiquée à 8024 points, j'avais indiqué que tant que l'on était au-dessus de cette zone du point de vue de la tendance globale en daily, eh bien on restait dans une phase de consolidation dite horizontale, donc il n'y avait pas de risque. Le problème c'est que là on est en train de casser cette zone, on va voir si cette zone on réussit à la préserver en clôture ou pas, mais si ce n'était pas le cas, eh bien on pourrait déclencher un mouvement baissier de poursuite de phase de consolidation qui deviendrait donc baissière, avec comme objectif un retracement de Fibonacci à 7885 points. Donc ça pourrait effectivement accélérer le mouvement baissier. Qu'est-ce que l'on a ? On a effectivement une ouverture à une baisse de taux de la part de la Banque Centrale Européenne liée aux chiffres de l'inflation. Les chiffres d'inflation, vous venez de le dire, sont plutôt dans la cible, puisqu'on se rapproche des 2%. Mais d'un autre côté, on a des matières premières, notamment le pétrole, qui monte et qui pourrait relancer l'inflation. l'inflation. Donc tout cela, c'est un petit peu, nous met un petit peu entre deux feux, si j'ose dire, puisque on a d'un autre côté l'inflation qui atteint la cible, mais qui pourrait repartir justement par rapport à ces matières premières. Donc quelque part, on va rester dans l'incertitude. D'un point de vue purement technique, au niveau de mes algos, on voit une possibilité de reprise du mouvement haussier la semaine prochaine. Donc tout espoir n'est pas perdu. Par contre, pour cette semaine, effectivement, on est vraiment dans un mouvement de baisse. Alors, c'est une baisse larvée, on le voit, il n'y a pas des volumes énormes, il n'y a pas de grosses volontés baissières, il n'y a pas de grosses attaques non plus, il n'y a pas une grosse volatilité. Mmh. On réagit un petit peu sur quelques news, mais finalement, il n'y a pas de mouvement de fond puissant. Donc, quelque part, on va surveiller cette zone des 8024 points. En cas de cassure, on a une zone qui a fait les deux points bas des deux précédentes séances, c'est 7975 points. S'il y avait rupture de ces niveaux, là, clairement, on peut s'attendre effectivement à un mouvement d'accélération baissière, mais globalement, si on arrive à préserver cette fameuse zone des 8024 points, eh bien, on pourra rester dans une zone assez neutre.
Du côté des valeurs, Gilles, alors qu'on va bientôt entrer dans la saison de publication aussi ici en Europe, ça démarre aujourd'hui aux États-Unis avec les banques, on en parlera dans un instant, mais du côté des valeurs, où est-ce que vous voyez des signaux techniques? Sur quelles valeurs vous détectez des signaux intéressants?
Alors, dans cette configuration, moi, ce que je vais rechercher, c'est des valeurs qui sont dans une tendance haussière, mais qui, par rapport à la consolidation que connaît l'indice, eh bien, sont sur des phases de consolidation, je dirais, moins fortes ou alors plus résilientes. Et j'ai deux valeurs, donc j'ai Thales, qui est en plus portée par, je dirais, le risque d'une augmentation des craintes géopolitiques. On a eu un mouvement haussier, donc, qui est parti d'un gap qui a été détecté au début du mois de mars. Ensuite, on a eu une forte phase de hausse. Et depuis, on consolide. On est revenu chercher des moyennes mobiles et tant que l'on préserve cette zone des 155 euros, eh bien, on peut s'attendre à une reprise du mouvement haussier qui serait eh bien, confirmée sur une rupture à la hausse de la zone des 163 euros. Donc, c'est une valeur intéressante. Qui plus est, si le risque géopolitique venait à grandir, eh bien, c'est une valeur qui pourrait justement continuer à monter. Et puis, la deuxième valeur que j'ai détectée qui a une configuration assez similaire, c'est Trigano. Trigano qui était dans un biais neutre depuis la fin de l'année dernière et qui a connu, elle aussi, un gap le 28 mars. Depuis, elle oscille entre, grossièrement, 155 et 163. Et le fait, justement, de résister et d'avoir une course assez horizontale alors que l'indice a tendance à consolider un petit peu, à être un peu plus baissier en tout cas, alors que ce gap n'a pas été comblé, justement, ce fameux gap haussier, on pourrait, en cas de retour à un mouvement haussier du marché, eh bien, profiter d'une surperformance sur ces valeurs qui pourrait justifier, justement, le fait de racheter pour profiter justement de ce mouvement, de la suite de ce mouvement haussier.
Merci Gilles. Gilles Santacreux nous accompagnait depuis les bureaux de boursicoté.com. Quelques valeurs qui envoient des signaux techniques. Et puis, alors, Étienne nous signale ce titre coté à Francfort, Varta. Vous savez, Jean-Louis, les piles Varta pour batteries aussi, les micro-batteries. Varta perd 32% en ce moment à Francfort sur un plus bas. Il semble que le plan de restructuration annoncé en mars 2023 pour Varta n'est plus suffisant pour redresser les comptes. Un nouveau plan de restructuration est donc attendu, sans doute d'ici à la fin juin. Ce titre Varta, c'est le monde qui change là sous nos yeux à travers les marchés et le prix que le marché donne à l'avenir. Ce titre Varta perd 32%. On en reparlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure dans la suite de l'émission. Vous nous suivez à la radio, à la télé et nos réseaux sociaux. Le Filix, vous pouvez vous y abonner, nous rejoindre sur le Filix BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. On vous interroge justement sur ces entreprises qui publient. C'est le coup d'envoi des publications. Les banques lancent la saison aujourd'hui aux États-Unis. Et la question qu'on vous pose sur le réseau, les entreprises à l'occasion de cette saison de publication, brilleront-elles toujours autant? Surprendront-elles agréablement le marché? Oui, non ou, troisième option, ce vendredi, laissez-moi tranquille. Oui, non ou laissez-moi tranquille. Tel est le choix. Jean-Louis, vous choisissez quoi, vous?
On est en pleine vacances scolaires. Hein,
oui, donc vous choisissez laissez-moi tranquille, quoi. Votre réponse, c'est laissez-moi tranquille.
Non, mais par contre...
Il n'y a pas de souci à s'assumer, Jean-Louis.
Je vais me mouiller un petit peu. Alors, c'est vrai que la dernière fois, pour la précédente saison des résultats, eh ben, je m'étais bien planté comme il faut, hein, parce que j'avais plutôt prévu que les résultats annuels allaient être pas très bons, en tout cas pour le dernier trimestre. Finalement, globalement, dans l'ensemble, ça a été très bon. Et là, on a quand même deux signaux qui sont positifs pour l'ensemble des groupes cotés français, c'est que la croissance, elle se tient quand même très bien côté États-Unis, hein, on le voit. Et il y a aussi de premiers signes que ça redémarre en Chine. Or, bah, le CAC 40, c'est quand même des valeurs qui sont très, très exposées à l'international. Et donc, bah, là, je dirais plutôt que ça pourrait encore briller ce trimestre.
Bon, les entreprises pourraient encore, aller un trimestre de plus, parvenir à briller, pourquoi pas surprendre agréablement le marché, parce que la Chine peut-être commence à envoyer certains signaux de réveil. Vous tous qui nous suivez, comment avez-vous voté? Vous êtes comme Jean-Louis, plutôt optimiste. Les entreprises brilleront-elles? Oui, vous répondez oui à 43%. C'est le vote majoritaire. Vous nous laissez d'ailleurs pas mal d'arguments en commentaire. N'hésitez pas à continuer. On abordera à nouveau les publications d'entreprises avec nos experts jusqu'à 18h. Dans le secteur bancaire américain, ceci dit, ça démarre mal quand même. Pour JP Morgan, par exemple, le titre JP Morgan, la banque a publié tout à l'heure, perd 5%. Citigroup a publié aussi tout à l'heure, Citigroup perd 0,8%. C'est pas top.
Ils avaient bien progressé avant, donc c'est. Ouais. Il faut voir dans le détail des comptes, mais je suppose que la.
Ça pèse, hein. Ça pèse, le S&P perd 1%. Ah! Il n'y a pas de risque financier pour autant. C'est-à-dire que la question autour du secteur bancaire américain, c'est de savoir si les banques régionales font peser sur l'ensemble du système un risque financier, un risque de crise financière. Dans les publications, on ne le voit pas. Ça, c'est peut-être le côté rassurant. En revanche, on voit du côté des ménages que ça commence à tirer la langue. Et du côté de certaines entreprises aussi, c'est ce qui ressort effectivement de certaines des publications du jour. Et voilà, c'est aussi l'effet de l'inflation qui commence à peser là-bas aux États-Unis. Jean-Louis, une autre valeur à ne pas rater, incroyable. Apple progresse. Incroyable en soi. Non, mais depuis le début de l'année, on avait perdu l'habitude. Oui, depuis hier, quel carton. Hier, le titre a gagné plus de 4% et ça continue aujourd'hui, alors qu'au street recul, Apple gagne encore 1% supplémentaire cet après-midi.
Oui, et donc 4,3% hier, hein, c'était tout simplement la meilleure séance depuis le 5 mai 2023, donc quasiment un an. En fait, il y a plusieurs éléments qui sont plutôt positifs pour Apple là, ces dernières heures et ces derniers jours. Alors déjà, Bloomberg qui évoque qui aurait un lancement dans les tuyaux de nouveaux Mac qui vont carburer à l'intelligence artificielle. Alors, c'est encore un peu flou. Apple n'a pas fait de commentaires, mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, Apple n'a pas beaucoup surfé sur la vague IA, mais ça pourrait venir. Et d'ailleurs, autre chose, c'est le cycle de renouvellement des smartphones. Et parce que là, on peut se dire que ça va accélérer, sans doute, pour les iPhones. À partir du moment où ils vont intégrer des logiciels d'IA dedans, on peut penser, par exemple, à de la traduction en temps réel ou à la possibilité de retoucher des photos. Enfin, voilà, vous voulez enlever quelqu'un d'une photo, hop, vous le faites en deux clics. Et il y a aussi deux notes d'analystes...
Qui soutiennent Apple encore.
Ouais, qui sont positives sur Apple, qui ont été publiées hier. Donc, il y a Bank of America qui considère que le marché s'est quand même souvent trompé sur Apple en sous-estimant sa rentabilité. Donc, ils sont toujours à l'achat et ils ont relevé leur cible. Et JP Morgan, qui lui évoque plutôt que les hedge funds recommencent à s'intéresser à la valeur Apple, bah notamment parce qu'en fait, comme elle a plutôt reculé, eu tendance à reculer depuis janvier, elle est redevenue moins chère et donc plus attrayante. Je vous rappelle, depuis janvier quand même, Apple est à moins 5% et on n'est pas tellement habitué sur cette valeur.
C'est vrai, depuis le début de l'année, Apple sous-performe, mais depuis hier, ça semble aller un peu mieux parce qu'en matière d'intelligence artificielle, Apple, qui communiquait peu, a peut-être de nouvelles perspectives en vue. Et c'est ce que le marché achète. Apple hier, plus 4 et plus 0,5%. Encore aujourd'hui, en revanche, des replis à Wall Street, plus de 3% de baisse pour Intel et AMD parce que d'après le Wall Street Journal, toujours cette tension entre la Chine et les États-Unis, d'après le Wall Street Journal, effectivement, les Chinois envisagent d'interdire l'usage de puces étrangères dans l'univers des télécommunications en Chine. Intel, du coup, perd 3% à Wall Street et AMD cet après-midi, en direct sous nos yeux, perd 4%. 16h43, on a sonné à la porte. Qui est à la porte? On va regarder, on va jeter un petit coup d'œil. Ah, c'est Sébastien Corchia. COGEFI Gestion, il est en avance, on l'avait invité pour le club à partir de 17h, il arrive un peu. Entrez Sébastien, entrez. Vous êtes le bienvenu, bien évidemment. Oui, il est en avance, mais on va profiter justement du fait qu'il soit là pour voir un peu plus d'expertise. En attendant que les autres invités du club n'arrivent juste ensuite, on va se parler un peu plus intimement. Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume.
Sébastien Corchia, vous faites bien d'arriver avec quelques minutes d'avance, Sébastien. COGEFI Gestion, vous êtes prêt à parler peut-être en toute intimité avant que les autres n'arrivent ensuite?
Avec plaisir.
On y va. Parce qu'hier soir, je vous le dis honnêtement, en me couchant, j'ai pensé à vous. Je me disais, il perd son âme, il est insensible. Comment le resensibiliser? Je parle de vous, Sébastien. Vous, les acteurs de marché. Vous, le marché que vous incarnez aujourd'hui sur ce plateau. Vous me semblez insensible au contexte géopolitique. On a quand même des tensions un peu partout dans le monde. Et pourtant, Sébastien, vous êtes au plus haut. Vous êtes au record. Les indices actions sont quasiment encore sur leur plus haut historique. Le marché devient-il insensible?
Alors écoutez, le marché, donc mon voisin, pas forcément moi, qui pour le coup est plus une sensibilité justement par rapport à ce marché. Mais effectivement, vous avez raison de signaler que ce marché, il devient insensible. Et comment on mesure son insensibilité? On le mesure avec le fait qu'il ne réagit plus à des événements. Il ne réagit finalement que de manière asymétrique, c'est-à-dire qu'il réagit à la hausse, mais qu'il ne réagit pas à la baisse. Et de ce fait qu'il a perdu une donnée importante qui fait partie, c'est son rythme cardiaque, en fait. C'est ça. Volatilité. Il a perdu cette volatilité et je m'en suis. Vous avez fait un rêve. Moi, j'ai lu le journal. C'était vendredi dernier. J'ai été assez surpris de voir les commentaires relativement à la séance de vendredi dernier où le CAC avait perdu 1,1%. Les commentaires du journaliste étaient. C'était une journée horrible. C'était la pire journée depuis le début de l'année. On a perdu 1,1%.
Ouh là là.
Et en fait, en y regardant de plus près, vous savez que les marchés américains sont riches de statistiques et que il y a une statistique actuellement qui dit que nous en sommes à la 290e, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, je crois, 290e séance consécutive depuis laquelle le marché américain n'a plus perdu 2% dans une séance. C'est rien, 2%. 2% dans une séance. Et 290 séances, ça fait plus de 300 jours, ça fait une année. Et en une année, vous savez comme moi qu'on a eu des événements, je pense tout simplement aux banques commerciales américaines, par exemple, à un moment qui avait connu des soucis, aux événements graves de géopolitique du mois d'octobre, etc. Et donc, vous voyez que le marché a effectivement perdu cette sensibilité que vous évoquez, cette volatilité, je l'appelle moi d'un point de vue jargon comme ça. Ou alors, est-ce qu'il l'a perdu, question, ou est-ce qu'il l'a déplacé autre part, et puis aussi pourquoi il l'a perdu?
Oui, alors justement, pourquoi est-ce que jusqu'ici, on verra, et chaque séance est un recommencement, mais pourquoi jusqu'ici le marché se montre-t-il, en tout cas le marché action, se montre-t-il si insensible au contexte, et notamment géopolitique? On a quand même là des menaces carrément de l'Iran sur Israël, le renseignement américain qui nous dit l'Iran prépare une attaque massive et imminente sur Israël. Enfin, il faut bien se rendre compte de quoi on parle là. Et pourtant, le marché action reste proche de ses records.
Oui, alors il faut comprendre que ce marché, il a un peu externalisé son risque sur d'autres marqueurs. C'est-à-dire que il vous dit, maintenant, j'exprime ma peur géopolitique sur le pétrole. J'exprime ma peur économique, par exemple, des dettes qui n'arrêtent pas de monter, du risque qu'on appelle souverain sur l'or. Valeur refuge par rapport à un risque souverain. J'exprime ma peur économique sur l'inflation, sur les marchés de taux. Et donc, il a, ça reviendra peut-être, mais il a segmenté un peu comme ça ses indicateurs de peur. Et sur les marchés actions, pourquoi il a plus peur? Parce que on lui a appris depuis maintenant quelques années, que bad news is good news, mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès qu'il y a le début d'un incendie, il y a, non même pas un camion de pompiers, mais vous avez carrément toute la caserne de pompiers, tous les canadaires, qu'on appelle les banques centrales, et qui vont immédiatement mettre de l'eau sur l'incendie, à outrance même parfois, qu'on appelle autrement, imager, les liquidités. Et pour vous montrer, dans ces 290 séances, il y a un événement qui est à un moment qui est arrivé. On a reparlé des banques commerciales, donc c'était en mars 2023, banque commerciale américaine qui posait problème. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on était dans une période de remontée des taux d'intérêt, de réduction du bilan de la Fed, et bien quand on regarde les statistiques, la Fed à ce moment-là, pendant 48, 72 heures, une semaine, a dit c'est guichet ouvert. C'est-à-dire quiconque a le moindre problème de liquidité peut revenir. On le voit, c'est-à-dire que le
et donc, bilan... un an après, le marché se dit, si tel devait être le cas, la Fed sortira à nouveau le canon à eau. Quoi. Y a
limite, ça serait presque... une mauvaise nouvelle de ce cas-là ferait qu'il y aurait des prêteurs en dernier ressort, des acheteurs en dernier ressort, etc. On parle beaucoup du Japon actuellement. Mais je vous rappelle que la Banque Centrale Japonaise, qui est un vrai laboratoire à elle seule, en des années, là, elle commence à arrêter, mais elle a même acheté des actions, et tellement que c'est le premier actionnaire du Nikkei. Donc, vous voyez que le marché, là, aujourd'hui, il n'a plus peur, en fait. Plus peur de rien.
Est-ce qu'il a plus peur, ou est-ce que, en fait, c'est un marché qui est administré, et donc, en fait, on a cassé le thermomètre?
Alors, c'est un marché qui est administré, je n'irais pas dire ça, même si on pourrait un peu utiliser le mot, mais c'est un marché qu'on a finalement décomplexé et qu'on a appris à évoluer dans un monde qui était un monde, je dirais, où rien de grave pour lui, marché peut se passer. Donc, il a complètement changé sa manière de penser. Et puis, par-dessus ça, vous avez en plus des acteurs qui sont arrivés et qui ont renforcé ça. C'est-à-dire que vous avez tout ce monde de la gestion passive. Alors, forcément, je la critique un peu parce que moi, je suis un monde de la gestion active. Qui essaye de raisonner dans ces liens dits intermarchés, la gestion active qui est passive qui elle ne raisonne pas et qui a fait qu'en plus on a concentré de plus en plus les investissements, les indices sur quelques titres. Donc comme les flux vont sur quelques titres, les indices ont un comportement que le reste de la bourse et donne une température qui n'est absolument pas celle du reste de la bourse. Vous le voyez, vous avez des titres qui sont Sky is the limit, c'est-à-dire on pense aux 7 magnifiques, là où vous avez des pans entiers de la cote, et même plus des petites ou des moyennes valeurs, parfois des grandes, qui sont en fait en déshérence, et c'est une véritable zone d'ombre.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de tendance du marché à s'auto-répliquer en permanence et à perdre le contact avec la réalité, voire un marché de plus en plus hors sol à cause de la gestion passive des ETF qui auto-répliquent les performances de marché, qui multiplient les périodes de momentum, vous dites comme ça, sur le marché. Et donc peut-être aussi l'effet des algorithmes, bref, un marché de moins en moins sensible au contexte géopolitique, on parle bien là du marché action, au point qu'on peut se demander si le marché a perdu son âme.
L'âme, le siège de l'activité psychique et des états de conscience. Les dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment le moi profond.
On parle de vous, Sébastien. Le marché a-t-il une âme ? Est-il capable d'âme ?
Alors moi, j'ai toujours cru que le marché parlait, effectivement, et qu'il fallait l'écouter. Je ne sais pas s'il a une âme, mais il a une parole. Et souvent, il nous délivre des messages. Il nous délivre le message comme en ce moment. Vous voyez que ce marché rejoue quelques thématiques particulières, celles des matières premières, celles de valeurs chimiques, de valeurs industrielles. C'est-à-dire qu'il est en train de vous délivrer un message qu'il s'intéresse peut-être au rebond de la Chine. Voilà. Donc le marché parle et vous dit des choses. Mais ce marché, il a de moins en moins de liberté et on le contraint de plus en plus aussi parce que par une forme de technicité, je vous citais la gestion passive, mais je peux vous citer tout un tas de gestions, alors en anglais on les appelle les CTA, mais des gestions très automatisées où en fait le système est simple et c'est presque une martingale. Les gens vendent des contrats sur la volatilité, je ne vais pas aller très loin dans la technique, mais vendent des contrats sur la volatilité, ça fait une pression monstrueuse sur la volatilité, ce qui fait que le VIX, ce fameux baromètre de la peur, est sous contrainte non-stop. Donc, il n'exprime même plus la peur. Et en face, avec l'argent qu'il récupère, le peu d'argent qu'il récupère, ils achètent des options sur les marchés d'actions.
Mais le VIX, là, alors justement, le VIX, voilà, on cherche le cœur des marchés, l'âme du marché. Le cœur battant, c'est le VIX, c'est l'indice de la peur du marché d'ailleurs. Il remonte aujourd'hui, figurez-vous. Oui. On est à 17 là sur le VIX. Et puis parallèlement, il y a l'once d'or qui monte. Ah, l'once d'or, actif refuge, le marché l'achète. On est à 2 433 $ l'once à l'instant. Est-ce que du coup, voilà, c'est vrai que le marché action il peut surprendre parce que contexte géopolitique est tendu, mais les actions sont presque au plus haut. Mais on voit quand même des signaux dans le marché global, au-delà des actions, de stress. L'âme des marchés, elle est en dehors des actions, elle est quand même sur l'or, elle est dans le dollar qui monte, autre valeur refuge, elle est dans le VIX qui remonte un petit peu. Bref, on arrive malgré tout à la ressentir par-ci, par-là ou pas, cette âme du marché.
Alors, vous ressentez quand vous avez un petit peu de cheveux blancs comme moi, effectivement, il y a un vieux, j'adore les adages boursiers, il y a un vieil adage boursier qui dit que les vieux boursiers avec les jeunes boursiers avec leur argent font de l'expérience et les vieux boursiers avec leur expérience font de l'argent. Donc j'en suis au moment où je commence à faire de l'argent.
Elle est énorme.
Je commence à faire de l'argent.
Vous la redire au ralenti, c'est magnifique. Au ralenti.
Les jeunes boursiers, hein, avec leur argent, font l'expérience. C'est-à-dire quand on perd, on apprend. Ouais. Et les vieux boursiers, avec leur expérience, font de l'argent. Donc j'en suis au moment où je commence à avoir suffisamment d'expérience pour commencer à faire un peu d'argent. Et tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des marqueurs qui s'accumulent, ne trompent pas, et en fait aussi des messages que nous délivrent les flux, c'est-à-dire que lorsque vous avez, exemple, des flux qui se dirigent de manière non-stop sur des valeurs comme la tech, et vous l'avez vu hier, c'est assez amusant.
Vous parlez que de la tech, il y a le reste.
Oui, mais non, parce que
le pétrole monte.
C'est le refuge.
Mais le pétrole monte. La tech, c'est l'impact de la géopolitique. L'or monte. Ça, c'est l'impact de la géopolitique.
De la dette. Mais les tech qui montent, c'est aussi une forme de peur, une forme de refuge. Vous n'allez pas vous mettre sur des valeurs de croissance et des valeurs de refuge si vous n'avez pas peur du reste. Si vous avez, si le reste va bien, si l'économie va bien, s'il n'y a pas de risque, alors vous achetez des cycliques, vous achetez les valeurs industrielles. Le fait que les valeurs industrielles soient mises de côté punies quasiment, et que tout le monde veuille aller sur la tech, c'est pas juste parce que la tech, c'est l'Eldorado. C'est quand vous allez sur une valeur de croissance ou que des valeurs de croissance, c'est que le reste ne vous paraît pas être intéressant pour jouer la croissance économique. Donc c'est aussi un marqueur de doute. Bon. Dernier marqueur de doute, et je le dis depuis longtemps, ce qui me surprend depuis le 1er janvier notamment, c'est tous ces flux qui se dirigent, et se dirigent encore, et vont se parquer sur les SICAV monétaires américaines. Les flux sont continus et le stock est au plus haut. Ça veut dire que les gens qui vont mettre leur argent sur les SICAV monétaires américaines, un, pensent que les taux vont pas baisser, parce que sinon, ils se diraient, je vais pas me mettre pour les retirer dans pas longtemps. Deux, c'est en faisant ça, ils ne participent pas à la hausse de la bourse américaine. Donc, ça veut dire quelque part qu'ils n'y croient pas. Il y a quand même beaucoup de gens, entre ceux qui vont sur l'or, ceux qui vont sur le pétrole, ceux qui vont sur les money market funds, les SICAV monétaires, tous ces gens-là ne participent pas à la hausse des actions.
Et d'ailleurs, on a un facteur risque qui va dans votre sens, là, parce que chaque jour, on scrute les réseaux sociaux et on essaie de mettre en exergue, de souligner des postes à forte valeur ajoutée. Et le poste qu'on a repéré va dans le sens de ce que vous venez exactement de nous dire, Sébastien. C'est un poste de Barchart, en l'occurrence Jean-Louis, qui nous montre que les dirigeants d'entreprises ont rarement été aussi peu nombreux à racheter des actions de leur propre entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas super optimistes sur l'avenir de leur entreprise en bourse. On peut peut-être rentrer dans le détail de ce poste de Barchart à retrouver aussi sur notre site BFM Bourse.
Oui, c'est ce qu'on appelle les insider buyers. Donc, ce n'est pas que le patron de groupe, hein, c'est le management, hein, grosso modo, les quatre dirigeants. Et effectivement, seulement 12,5% des entreprises cotées aux États-Unis pour lesquels les managers ont acheté davantage d'actions qu'ils n'en ont vendu sur le mois. Et en gros, ça fait plus d'une décennie qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est vrai que c'est pas un très bon signal. Après, moi, je pense qu'il faut pas surinterpréter, parce que ce sont pas les managers qui font le marché, et c'est pas parce qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise qu'ils savent parfois mieux valoriser leur entreprise. Et puis peut-être aussi parce que les cours sont quand même, on est quand même quasiment à des plus hauts historiques partout. Donc effectivement, peut-être qu'ils prennent un petit peu de profit pour mettre de côté de l'argent.
Allez, je double la mise et je surinterprète, moi, en disant, ok, ça c'est ceux qui ont acheté. Par contre, on n'a jamais eu autant d'insiders depuis le début de l'année qui ont vendu des titres de leur société, et des gens iconiques. Ce qui laisse quand même à penser qu'eux ont une bonne aussi notion, mais dans l'autre sens, c'est une opportunité assez rare de vendre, y compris jusqu'au patron de JP Morgan qui n'avait pas vendu.
Mais peut-être qu'ils vendent pas par pessimisme, mais parce qu'ils en ont besoin, ils veulent financer, enfin je sais pas, il y a des raisons fiscales aussi parfois, on vend des actions pour des raisons fiscales.
Ils sont un peu nombreux pour avoir tous le même besoin de fin de mois, etc. En tout cas, c'est le cumul de ces signaux faibles qui laissent à penser que si le marché n'arrive pas à nous donner cette conviction d'un danger et l'exprimer, il y a d'autres signaux qui peuvent nous informer.
Alors, petite précision, c'est les achats nets hein, ici, donc c'est ce qu'ils ont à acheter moins ce qu'ils ont vendu.
La famille, merci beaucoup. Jean-Louis Deloro pour notre site BFM Bourse, et cet article consacré à Apple. Apple qui remonte depuis hier, qui peut-être enfin se réveille après un lourd début d'année en bourse. Apple hier a pris 4%, ça continue, plus 1% aujourd'hui, parce que d'après Bloomberg, les futurs Mac d'Apple intégreraient beaucoup plus d'intelligence artificielle. L'article détaille donc sur notre site BFM Bourse. Voilà. Merci Jean-Louis.
Eh bien, à bientôt.
Bravo.
Bon week-end.
Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Et Sébastien Corchia qui nous accompagne pour Cogefi Gestion. Vous allez rester avec nous d'ailleurs, Sébastien. Ouais. Si ça vous dit. Oui, parce que vous êtes arrivé en avance. Le club, on vous attendait pour 17h, puis vous êtes arrivé un peu en avance. Voilà, une liberté que vous vous êtes offerte. Mais vous avez eu bien raison. On a pu profiter effectivement de votre expertise et s'interroger ensemble sur l'âme des marchés. Maintenant, on va regarder ce que, au-delà de l'âme, le marché a dans le ventre. Le potentiel pour la suite, quelle allocation pour les portefeuilles. Le club à suivre juste après la pause. On se retrouve dans 2 minutes sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.